Amis Potono, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre. On refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré avec un programme contrasté, puisqu'on va parler de choses extrêmement déplaisantes dans un premier temps, avec eh ben, le projet de dissolution des groupes, qui est la nouvelle qu'on est, enfin, qui a été officialisée, on va dire. Puisque ça fait un moment que le projet est connu. Donc, projet de dissolution des groupes à nouveau, comme la saison dernière. Donc, on va dire un petit peu ce qu'on en pense. Et ensuite, on parlera de choses un peu plus réjouissantes, bah, les résultats. Les résultats, évidemment, sur le plan comptable, eh ben, c'est au beau fixe, du côté des Verts. On insistera peut-être dans cette série positive, sur l'évolution dans le jeu. On a l'impression quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, dans un troisième temps, ben, on parlera des perspectives de fin de saison. On regardera un petit peu la série de quatre matchs qui va nous amener à la réception de Troyes. Et puis, également, là aussi, plus réjouissant, les 50 ans de l'épopée. Alors, avec moi pour animer cette émission ce soir, l'homme de la technique, mais pas seulement, Verivel. Salut Verivel.
Salut Osvaldo et bonsoir à tous.
Avec nous, un habitué aussi, habitué de l'émission et du COP Nord, c'est Pat. Salut Pat.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous.
Et puis l'inamovible par hasard qui est arrivé un peu tard, mais enfin il est là, c'est l'essentiel. Salut par hasard.
Salut, tu fais des rimes, Osvaldo, ce soir.
Oui, mais c'était voulu mais improvisé, non préparé. Alors, on va commencer avec le projet de dissolution des groupes qui vient s'ajouter à l'interdiction de déplacement à Nancy. Donc, on remet ça après une grande et belle mobilisation la saison passée. Eh bien, le gouvernement veut à nouveau dissoudre les deux groupes principaux de supporters, les deux groupes ultra de Saint-Étienne. Donc, tout le monde les connaît, hein. Si vous écoutez l'émission, vous les connaissez forcément, les Magic et les Green. En les confondant manifestement, en faisant un package avec des associations de personnes qui n'ont strictement rien à voir avec eux, hein, des gens politisés, violents, et qui ne sont pas là pour animer des tribunes. Alors, voilà, les infos qu'on a. Infos de l'intérieur, on va dire, hein. Je vais pas donner plus de précisions, mais des infos sûres, c'est que cette fois-ci, il y a une volonté de peut-être de pas tellement s'intéresser au dossier, mais de dissoudre, pour envoyer un message certainement politique. En associant ça à une politique de sécurité, je suppose. Voilà, mais il semblerait, hein, il y a un risque que les dés soient pipés. Alors, j'espère que la mobilisation va être énorme pour empêcher cette ignominie. Je cherche un peu mes mots parce que j'essaye de rester mesuré. Je dois vous dire que j'ai des propos extrêmement virulents qui me viennent en tête et il ne faut pas que je me laisse aller. Donc j'essaye de rester un petit peu mesuré. Je vais justement interroger quelqu'un qui est plus mesuré que moi en général sur cette problématique de la dissolution. Des groupes. Par hasard, on commence avec toi, évidemment, ça nous concerne tous, on est tous touchés par ça, que ce soit vous qui écoutez, je n'en doute pas, ou nous qui animions l'émission. Par hasard, je voudrais ton sentiment sur cette nouvelle charge à l'égard des deux poumons, comme on les appelle parfois, de Geoffroy Guichard.
Ouais, bah écoute, déjà j'apporte un petit démenti. Je crois pas être en la matière particulièrement plus mesuré que toi. En tout cas, je suis profondément, ça me déprime profondément, sachant que ça fait 15 jours, 3 semaines que j'ai eu l'info par quelqu'un qui connaît bien un Magic. Donc, et en fait, quand j'ai eu l'info, j'ai été méga surpris parce que autant après quelque chose comme un événement comme celui du barrage contre Auxerre, on savait qu'il s'était produit un truc grave, un truc exceptionnel au sens qui n'arrive quasiment jamais dans un stade en France. Autant là, si on refait le film depuis 4 ans, depuis Auxerre, franchement, qu'est-ce qui s'est passé de très grave avec nos groupes? Rien. Il y a eu deux, trois sorties de route, effectivement, qui sont pas très brillantes, mais sans blessés, sans finalement deux batailles entre eux, d'ailleurs, notamment dans les trois sorties de route. Je pense à Rodez et Grenoble, et Troyes, pardon, le match à Troyes. Et puis, il y a eu cette histoire de Grenoble où les forces de l'ordre sont pas claires du tout. Et en fait, bah, mon sentiment, c'est, j'en ai discuté pendant 1 heure avec mon fils qui lui non plus ne comprenait pas, était énervé, et j'étais en peine, bien en peine, de lui dire, de lui expliquer en fait. C'est-à-dire que mon sentiment, c'est que c'est à la fois injuste, totalement injuste. Je l'ai vraiment pas vu venir parce que je trouve que c'est vraiment pas mérité. Et puis aussi, ça sera aussi inefficace qu'injuste. Et donc, ouais, un vrai sentiment de un peu de déprime et de dégoût de ma part. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, sinon pour me paraphraser. Donc, je vais pas me paraphraser plus que ça.
Ouais, alors je vais pas trop m'attarder sur l'épisode de Grenoble parce que ce qui saute aux yeux, bah on n'a pas la preuve en fait de ce que tout le monde pense, y compris un sénateur. Un sénateur qui s'exprimait sur le sujet parce que j'ai découvert qu'il était chauffeur d'un des quarts de supporters, donc il a vu la manœuvre qui a amené l'écart des Greens et des Magic et pas des autres supporters. C'est ça qui est absolument fabuleux. Donc l'écart des Greens et des Magic au contact direct des ultras grenoblois. Donc bon, après, il n'y a pas de preuve, donc faut pas porter d'accusation. Enfin, on en a très envie, mais on peut pas. Mais au-delà de ce que tu dis, le dégoût, etc., le fait que ça soit infondé, parce que effectivement, enfin, si on commence à dissoudre des associations pour des micro-événements, il va falloir à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, je pense. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait plus de délinquants dans les tribunes de Geoffroy qu'à l'Assemblée nationale. Il y a aussi un caractère, à mon avis, très dangereux, puisque on sait très bien que nos groupes sont très structurés et que du coup, ils canalisent une jeunesse parfois fougueuse. Pat, toi comme moi, nous sommes abonnés COP Nord. La différence, c'est que toi, tu y es à tous les matchs, puisque moi, je suis un peu loin, je ne peux pas venir à tous les matchs. Comment tu vis cette nouvelle et cette volonté affichée de dissoudre les groupes?
Bah, écoute, moi je la vis, j'ai deux états. Le premier, c'était hier, c'était plus la sidération. Parce que bon, c'est vrai que les rumeurs circulaient, on va pas se le mentir. Depuis 2 semaines, c'est vrai que j'avais eu des ouï-dire comme quoi ils pourraient mettre ça sur la table, mais je me disais, bon, il n'y a quand même pas non plus matière plus que ça à activer la chose. Et quand hier j'ai vu tomber toutes les dépêches les unes après les autres, et encore plus aujourd'hui, voir tout ce qui continue à tomber en annonces diverses et variées, j'étais totalement sidéré en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça pour, après toute la mobilisation qu'il y a eu il y a 1 an, toute la démonstration de l'incongruité vraiment totale de cette possible décision il y a 1 an, la mobilisation qui en a découlé, et au final tous les arguments, tous les engagements politiques qu'il y a eu aussi, hein, et ça on peut le saluer, hein, de tous bords, qui ont fait qu'au final la décision a été suspendue. pourrait se dire, bon, il y avait quand même matière à ne pas relancer le truc, surtout qu'il ne s'était pas passé d'incident grave. Et des incidents déplorables, oui, c'est sûr, par hasard les a déjà cités. Néanmoins, enfin, moi, ce qui m'a sidéré vraiment, c'est la spontanéité, la rapidité d'enchaînement, et surtout, et là, ce qui commence, moi, franchement, à m'énerver, parce que là aussi, il va falloir que je garde mon calme, c'est le côté totalement injuste, le côté totalement, je trouve pas le mot, mais enfin, précipité, et le sentiment vraiment qu'ils veulent se faire la tête de nos deux copes, de nos deux groupes, pour des raisons totalement fallacieuses, d'ego mal placé, parce que on pourra pas m'enlever ça de l'esprit, même si ça peut paraître un peu complotiste, que cet acharnement sur nos deux groupes depuis des années résulte aussi d'un dialogue impossible depuis plusieurs années avec les autorités locales de la préfecture notamment, et que ces gens-là, décidément aimant vivre ensemble, ayant des accointances personnelles les uns avec les autres, font que, par ego mal placé certainement, les anciens préfets de la Loire ont certainement dû jouer un rôle auprès du ministère de l'Intérieur pour pousser particulièrement l'action sur nos deux groupes, et sous prétexte politique actuelle qu'on peut effectivement regretter, hein, ce qui s'est passé à Lyon est totalement condamnable. Néanmoins, ça n'a aucun rapport avec nos deux groupes. Néanmoins, on fait un amalgame. Ça, l'occasion de se faire la tête des groupes stéphanois sur le dos de la sécurité, soi-disant sécurité, pour faire de la com, pour faire de l'enfumage. Et comme ça a été dit précédemment, ça n'aura que pour effet de rendre la situation beaucoup plus critique, beaucoup moins gérable et certainement beaucoup plus dangereuse à terme pour tout le monde. Donc oui, très énervé.
Oui, et c'est vrai que c'est totalement évident, c'est de l'ordre, ça relève de l'évidence. Il n'est même pas nécessaire d'être un fin connaisseur des tribunes pour se rendre compte que un encadrement qui a une grande légitimité hein, depuis 30 ans, c'est un gage de sécurité en fait. C'est une garantie qu'il y ait des référents, des interlocuteurs pour tous les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, que ce soit du côté de la police, des stadiers, de la mairie, tout ça, tout le monde est opposé à la dissolution. Et donc, il ne faut pas être grand clerc pour se rendre compte que, en termes de sécurité, les choses vont se dégrader. Alors, quand on fait ce constat, il n'y a que deux solutions, en fait. Il y a soit on est face à une ignorance et une incompétence qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer, en particulier pour des gens à un tel niveau de responsabilité, soit il y a une volonté que les choses se dégradent. De mon point de vue, il n'y a pas d'autre explication. Puisque si on le fait, ça va se dégrader de toute façon. Bon. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment dégueulasse, quoi, et puis extrêmement inquiétant. Un mot de Vérivelle là-dessus. Hein. C'est vrai que Vérivelle, il t'est arrivé d'être un peu sévère avec les groupes, et on sait bien pourquoi, en particulier après ce qui s'est passé à Auxerre. Tu étais remonté, tu n'étais pas le seul, pas à Auxerre, contre Auxerre, pardon. Tu étais remonté, tu n'étais pas le seul. Bon, les choses ont bien évolué depuis. Je voulais aussi avoir ton sentiment avec ton regard parfois un peu plus circonspect sur les groupes. Donc, ton sentiment sur ce projet de dissolution qui, je le répète, à ce stade, est une vraie volonté avec un pseudo-passage, ou alors un passage devant une pseudo-commission, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais qui, a priori, est vraiment là pour faire croire qu'il y a du contradictoire, mais qui ne va pas servir à grand-chose. Donc, Vérivelle.
Oui, bon, c'est vrai que moi, je suis peut-être un petit peu plus critique envers les groupes ultra que vous. Je trouve qu'ils ont, ils ont beaucoup de choses, enfin, ils ont des choses à régler, en fait, et qu'ils n'ont pas réglé depuis pas mal d'années. Par contre, c'est pas justement en enlevant enfin, en faisant une dissolution d'une association qui est justement là pour être le garant en fait de l'organisation de cette tribune qu'on va améliorer les choses, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, les ultras, ils vont pas arrêter de faire des déplacements, ils vont pas arrêter de venir au stade pour faire leurs animations. Donc, c'est juste qu'il y aura plus d'interlocuteurs vraiment définis pour justement tenter de régler les choses qu'on doit régler, parce qu'il y a des choses à régler. Faut pas non plus être complètement naïf. Donc moi, je suis comme vous, je suis sidéré parce que c'est pas du tout c'est pas du tout une solution et c'est pas du tout la bonne chose à faire. Tout le monde le sait et pourtant ils y vont. Bon, c'est pourquoi ils y vont, parce qu'ils espèrent en tirer un avantage politique, ça c'est sûr. Bon, après, j'avoue que je comprends pas. Même l'avantage politique, là, je le vois pas, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'attaquer à ce niveau-là que je comprends pas. Voilà, je suis
Bon,
comme vous.
juste, je voudrais dire, l'avantage, on pourrait le voir s'ils avaient décidé d'être ultra sévères, mais avec tous les groupes, finalement, de supporters
Bah oui, c'est sûr.
un peu vivants, parfois un peu limites, quoi. Et là, on se dirait, bon, bah voilà, on est dans un état ultra policier, ultra liberticide, qui déciderait qu'on ne doit pas bouger une oreille, qui déciderait que tous les stades doivent ressembler au stade d'Angleterre, où tout le monde est assis et ne peut pas se lever, etc. On pourrait, ça au moins, on comprendrait un peu une logique, à défaut de l'accepter, on verrait un peu une logique, à défaut de la, ouais, comprendre, ce n'est pas le bon mot. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'on se dit, je ne sais pas, il y en a un qui a une dent contre synthé, c'est quoi le truc, en fait? C'est ça que je ne comprends. Enfin, moi, je suis totalement perdu face à, au-delà du fait que je suis déprimé. Face à ce truc-là. C'est-à-dire, on a été, il y a un an, amalgamé avec un groupe d'extrême droite, plus qu'extrême droite, strasbourgeois, et puis un autre groupe parisien, enfin supporter du Paris FC, qui était aussi estampillé extrême droite, et des petits groupuscules en plus, enfin, qui ne faisaient pas vivre vraiment leur tribune. Donc, déjà à l'époque, c'était assez choquant. Et là, bah, ce qui est choquant, c'est qu'on se retrouve les seuls concernés. Donc, il y a vraiment un problème et une explication. Vous verrez aussi sur le site, il y a une lettre ouverte signée par le nouveau maire Juanico et par les parlementaires de tous bords de Saint-Étienne, donc de LFI jusqu'aux Républicains. Qui dit d'ailleurs que les forces de l'ordre dans la Loire s'oppose à la dissolution, quoi. Les renseignements territoriaux s'opposent aussi à la dissolution. Donc, il y a une espèce d'unanimité locale pour dire que c'est complètement crétin. Et unanimité de tous bords politiques, et unanimité y compris de la part de gens qui sont supposés assurer justement la sécurité et l'ordre. Donc, je sais pas, c'est un poisson d'avril. Il y a vraiment un truc totalement inexplicable, quoi. C'est ça qui je trouve moi me, enfin qui moi me rend encore plus foudrage, c'est que quand il se passe un truc triste, un truc malheureux, un truc qui nous touche, si on le comprend, bon, on l'accepte un petit peu plus, mais là en fait on le comprend pas du tout. Donc c'est hallucinant et c'est scandaleux et c'est insupportable en fait.
Moi, je crois par rapport à ce que tu viens de dire, je vais te donner la parole après, hein, Vérivel, j'ai vu. Je crois par rapport à ce que tu viens de dire que le plus gros défaut de nos groupes, c'est leur indépendance, leur liberté et leur volonté farouche de ne pas céder aux injonctions liberticides des autorités actuelles. Moi, je pense que c'est ça le plus gros problème. Si on regarde en termes de taille, de cohésion, d'indépendance, je crois que ce sont deux groupes dangereux pour un pouvoir qui veut tout contrôler, qui a peur de la liberté de ses citoyens. Et même si c'est moins grave, quand on voit l'arrêté d'interdiction de déplacement à Nancy, par hasard, je t'ai vu, par hasard, c'est le moment de le dire, réagir à ça, mais c'est stupéfiant, c'est inimaginable. Comment cela peut-il être légal dans la France d'aujourd'hui d'empêcher toute personne se prévalant ou se comportant comme un supporter de Saint-Thé de voyager librement? Enfin, quelqu'un qui a sa grand-mère, qui est supporter de Saint-Thé, qui a sa grand-mère à Nancy, ne peut pas aller la voir ce week-end, quoi. Il tombe sous le coup de la loi, quoi. Ça dépasse l'entendement. Et donc, je pense que cette liberté, cette volonté farouche de ne pas céder, quitte à prendre des huis clos, je ne vais pas rentrer en plus dans les IAS, dans les interdictions administratives de stade qui sont hallucinantes. Barthélémy, l'avocat spécialiste des ultras, résume très bien les choses régulièrement. C'est invraisemblable ce qu'on impose à des gens qui, au bout du compte, après recours, sont blanchis. Mais sont blanchis alors qu'ils ont purgé la totalité de leurs 2 ans d'interdiction de stade et qu'ils ont dû pointer entre 2 et 5 fois par semaine au commissariat de leur domicile. Quand on parle de supporters qui sont des sous-citoyens, ce n'est pas une formule, c'est un fait. En tous les cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc voilà, cette indépendance, cette liberté, cette cohésion, je pense que ça fait peur. Je pense que ça fait peur. Parce que, Verivel, tu disais, il y a des choses à résoudre. Oui, mais est-ce qu'il y a plus de choses à résoudre chez les Magic et chez les Green que dans une association qui comporte quelques milliers de personnes en moyenne? Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à regarder les problèmes dans toutes les assos. Si vous connaissez le monde associatif, vous savez que c'est rarement... un long fleuve tranquille, hein. Des histoires, il y en a, des gens qui tapent dans la caisse, il y en a, etc. Et là, je ne fais pas allusion aux ultras, parce que je pense que ça ne tape pas dans la caisse, hein, chez les ultras. Donc, mais ce que je veux dire, des gens qui ne se comportent pas correctement, il y en a dans toutes les instances, c'est normal, c'est dans la nature humaine. Donc, si on regarde le pour et le contre, si on regarde les actions positives des ultras à Saint-Thé, et je ne parle pas seulement de l'animation des stades, tout le monde connaît leur implication dans des causes nobles et justes par ailleurs, et qu'on regarde les débordements, les machins, qui d'ailleurs sont réglés en interne parfois de manière plus efficace qu'ailleurs, bon, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit... Par rapport à la moyenne nationale, je ne pense pas que ce soit même des assos plus dangereuses qui causent plus de problèmes. Mais je crois par contre que leur état d'esprit fait peur. Bon, voilà. Verivel, je te donne la parole. Désolé pour ce monologue. On l'a dit, ça écœure, ça dégoûte. Donc voilà, on a quand même des choses sur le cœur à dire. Bon,
tu as raison.
Peut-être fait un peu long, mais... Mais vraiment, ça me dégoûte, quoi.
Écoute, tu as raison. On est là pour ça. Je voulais parler du chat parce que sur le chat YouTube, il y a des historiques hein, de On refait le mastre. Il y a notamment Potavo, Cédric, Denis et Frankie McFly qui discutent. Et globalement, ils sont d'accord avec nous, notamment Potavo hein, qui dit qu'on n'a pas créé des associations pour avoir des interlocuteurs privilégiés. Avoir des parkages pour la sécurité, la facilité d'encadrement et un SLO là, pour que d'un coup, on souhaite des dissolutions, ce qui va complètement à rebours donc, du coup, de ce qui a été mis en place avant. Denis et Cédric, eux, ils disent que dans un an, peut-être tout ça sera réglé parce que les élections seront passées par là. Alors ça, moi, je suis pas sûr que... Du coup, ça change grand-chose, mais on verra bien. Voilà, en tous les cas, le chat est animé. Si vous voulez vous connecter et discuter, vous êtes les bienvenus.
Bon, et puis on les remercie hein, à la fois de nous écouter, de participer. C'est très plaisant que vous donniez votre avis. Verivel surveille ça de près, intervient régulièrement et nous, ça nourrit notre réflexion, c'est très bien. Très vite, par hasard, parce qu'on va passer à la suite, malheureusement, parce que moi, il y a des fois, je suis tellement dégoûté, j'aurais envie d'en parler pendant 10 heures de suite. Mais comme j'ai dit, je t'ai vu réagir sur l'interdiction de déplacement. Là, est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus? Est-ce que ce que j'ai dit, ça ressemble un peu à ton ressenti aussi?
Oui, en fait, juste le point qu'on peut ajouter, mais dont on a déjà parlé, donc il n'y a rien de nouveau là-dessus, c'est que on est quand même le seul grand pays européen qui gère aussi mal le phénomène supporter et qui du coup n'a pas trouvé d'autre solution que d'interdire le déplacement aux supporters pour éviter que d'éventuels risques d'embrouille, quoi. Et en fait, c'est une démonstration par l'absurde. Ça devrait te parler, ça. Je ne sais pas si l'expression est bien employée en l'occurrence, mais c'est une démonstration par l'absurde de leur incapacité. C'est-à-dire que leur décision est absurde, mais leur incompétence est parfaitement démontrée. Voilà. C'est-à-dire que bon, peut-être qu'un jour il faudra aussi interdire les matchs de foot. Et si on dissout le championnat, effectivement, il y aura plus de heurts entre supporters, peut-être. On peut aller jusque-là. Allons-y. Donc bon,
Oui,
ouais,
et puis
rien d'autre à dire.
délocaliser au Qatar, puisqu'il n'y a plus que ça qui les intéresse, avec des mannequins dans les tribunes. Oui, c'est bien, si c'est ce qu'ils souhaitent. Enfin bon, voilà, c'est tout à fait insupportable. Un dernier mot de Pat au sujet du COP Nord. Bon, il n'y a personne qui a en su d'ici, mais on est 100% solidaire avec les Greens, évidemment. Sachant que bon, tiens, on va leur faire quelques compliments aux Green quand même, parce que c'est peut-être le meilleur groupe au niveau des tifos et des banderoles en France. Enfin, je trouve que Lanor, c'est très très fort, et les Green, c'est au moins de ce niveau-là aussi. Ils sont exceptionnels à ce niveau-là. Donc, Pat, peut-être un dernier mot. Est-ce que quand t'es en COP Nord, t'as l'impression d'être dans une assoce et d'être au milieu de membres d'une association de délinquants, tu vois, plus que quand tu regardes les questions à l'Assemblée générale, oui, à l'Assemblée nationale, pardon, par exemple, hein, au hasard.
Non, bah, non, ça ferait pas plus de 30 ans que j'irais traîner mes guêtres dans les travées du COP, hein, si c'était le cas. Non, on est face à un groupe, certes, qui vit pour ensemble et qui il vit essentiellement pour lui, mais bon, après, c'est les codes ultra qui sont comme ça. Et puis, je vais pas rentrer dedans parce que j'y connais pas grand-chose finalement, mais. Au final, ça reste une famille. Dans le COP, on y est tous accueillis, on chante tous ensemble, on supporte la même équipe. Voilà, après, le COP Nord n'est pas une zone de non-droit. On n'y est pas du tout en insécurité. Alors, chacun après sait où se placer dans la tribune pour être dans la meilleure situation qui lui convient. Ceux qui aiment être au cœur de l'action vont aller plutôt en bas. Ceux qui, comme moi, préfèrent être au calme et chanter et participer à l'ambiance se mettent en haut. Et puis voilà, et puis on vit tous très bien comme ça. Non, c'est pas, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est là où on est dans une situation vraiment totalement abracadabrantesque, excusez-moi du terme, de voir que nos deux groupes sont assimilés à des dangereux groupes extrémistes qui, eux, pour le coup, ne vivent que pour la violence, font des violences qui sont tellement au-dessus de ce que ne peut être fait par nos groupes. Et encore une fois, je ne suis pas là pour légitimer les incidents qu'il y a eu, hein, parce que je les trouve tout aussi regrettables que ce que par hasard a dit au début. Et on n'a rien à voir. Donc là, on est vraiment sur de l'acharnement ciblé sur nos groupes, mais que les autres groupes ne se réjouissent pas trop vite, parce que si jamais nos deux groupes sont dissous, il y a fort à craindre que les autres suivront derrière, même si c'est plus difficile de s'attaquer à des groupes, on va dire, plus influents, entre guillemets, politiquement parlant, en tout cas qui sont soutenus par des villes plus importantes comme Marseille ou Paris, par exemple, ou des instances plus importantes. Ça tombera. ça tombera. Et puis, ce qui arrive là, nous tombera ensuite, nous, dessus également, qui n'en faisons pas partie. On n'aura bientôt plus le droit de chanter dans les tribunes. On n'aura plus le droit de rester debout. On n'aura plus le droit de venir sans avoir à payer comme jamais notre place en tribune, une fortune. Et à la fin, bah, ce sera la mort du foot en France. C'est leur souhait. En tout cas. Ils le disent pas, mais c'est tellement, ça dégouline tellement de toutes les prises de parole qu'ils peuvent avoir, qui transpirent à chaque fois leur méconnaissance du sujet, mais également leur condescendance vis-à-vis des supporters, qui sont devenus un véritable laboratoire pour le futur. Moi, je suis vraiment très très inquiet quand je vois la dérive que prend notre pays en ce moment. Et nous, on le voit en avant-première dans les tribunes, et je pense que c'est pas fini.
Oui, les supporters, de toute façon, sont un des groupes sur lesquels on essaye de restreindre les libertés, d'imposer des choses qui, je le répète, de mon point de vue, sont inacceptables. C'est même incroyable que ça soit légal, je l'ai dit. Enfin, moi, ça me stupéfie à chaque fois. Mais évidemment, ce qu'on essaye sur un groupe, on peut l'étendre à d'autres groupes qui n'ont pas bougé à ce moment-là. Après, et puis tu parlais de condescendance, on va finir avec ça. C'est vrai qu'il y a certaines prises de parole de personnes totalement ignorantes, totalement sur le sujet, qui s'imaginent être importantes, qui ne le sont pas, qui s'imaginent avoir une puissance d'analyse supérieure à la moyenne. Et manifestement, on en est très loin. Et ces gens-là sont extrêmement condescendants avec les supporters de football. Bon, eh ben, la société est ainsi faite qu'on donne la parole à des ignorants sur tous les sujets et que ces ignorants deviennent des références pour les gens qui écoutent, parce que les gens qui écoutent s'imaginent que si on leur donne la parole, c'est que ils sont compétents, voilà, hop, et le cercle vicieux est refermé. Bon, on va en rester là sur ces sujets. Je crois que notre sentiment sur la question est dorénavant clair pour tout le monde. On va essayer de repartir sur un peu plus de positif, même si ah, ça a un peu plombé l'ambiance, peut-être. Et sur la série remarquable qu'on est en train de vivre. Tiens, Pat, je reviens vers toi, une fois n'est pas coutume. Je te redonne la parole une deuxième fois. On échange parfois sur Twitter, enfin ex-Twitter, ensemble. Et sur les premiers résultats de cette série, donc depuis l'arrivée de Philippe Montagnier, je parlais de victoire en trompe-l'œil. J'ai l'impression qu'on a passé un cap et que on propose un contenu plus solide, plus satisfaisant, plus convaincant dans cette série que c'était le cas au début.
Oui, ça c'est indéniable. Alors il y a eu ce petit couac entre guillemets à Grenoble où l'équipe est passée au travers, mais dans ce marasme a quand même pris un point. Mais sinon, effectivement, là on sent quand même que l'équipe monte en puissance, que la patte Montagnier se met en place, notamment dans le système de jeu, dans les transmissions de balles, dans les phases offensives. Mais surtout, ce qui est le plus flagrant depuis son arrivée, c'est le retour enfin d'une assise défensive digne de ce nom. Enfin, un bloc qui joue beaucoup plus resserré, les lignes plus resserrées, mais qui se découvre pas non plus en laissant les ailes totalement dégarnies comme c'était le cas avant. Tout le monde défend, tout le monde s'arrache. Alors, il y a peut-être eu aussi un effet à arriver d'un nouvel entraîneur, on va pas non plus le nier. Et puis, rendons aussi à Quilmer, pour une fois, les bonnes décisions qu'ils ont prises au mercato avec l'arrivée notamment de Kanté et de Le Cardinal. Mais effectivement, on sent que maintenant, là, l'équipe monte en puissance. Alors, c'est vrai qu'au début, je me souviens de nos échanges. Moi, c'est vrai que je louais cette solidarité retrouvée tout en regrettant un peu le système de jeu qui n'était pas encore en place, mais néanmoins les résultats étaient là, et c'est en Ligue 2, c'est tout ce qui compte, en tout cas pour moi. Mais là, maintenant, surtout quand on regarde le dernier match contre Annecy, on voit qu'on a une équipe qui est capable de s'adapter aussi maintenant à son adversaire, à changer de système, et à le faire avec éclat. Alors, c'est un seul match, hein, donc on ne va pas s'enflammer non plus. Mais en tout cas, moi, je retrouve les valeurs que j'attendais de voir dans l'équipe bah, depuis toujours, pratiquement. C'est-à-dire vraiment une équipe qui se laisse pas déborder, qui s'arrache pour défendre, qui se laisse pas envahir chez elle et qui finit par l'emporter. Alors des fois à l'arrache et puis souvent et parfois par éclat également. Donc là, effectivement, on est vraiment sur une série remarquable qui laisse beaucoup d'espoir pour la suite.
Alors, avant de donner la parole à Parazar sur le sujet de l'implication des joueurs que moi j'ai trouvé en hausse ces derniers temps, je voulais interroger Verivel sur le système adopté par Philippe Montagnier contre Annecy, puisque on a joué en 3-5-2, hein, enfin 3-5-2, 5-3-2, c'est toujours discutable, hein, on était plus en 3-5-2. Or, le plus grand opposant à une défense à trois dans tout l'Hexagone, c'est notre Verivel national. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce choix contre Annecy, Verivel?
Bah, alors déjà, moi j'étais stupéfait par l'après-match où on était tous abasourdis que en fait Philippe Montagnier avait du coup mis en place un deuxième système. Et ça, je me suis dit, mais c'est quand même révélateur en fait que de ce qu'on avait traversé pendant l'époque Horneland, parce que quand même pour une équipe professionnelle en Ligue 2, avoir deux systèmes. Moi, je trouve pas ça complètement fou, quoi. En fait, je trouve ça même complètement normal. Et même sur Poteau Carré, hein, je crois que Pilou, il avait titré son article un deuxième système, comme si c'était le truc complètement dingo et la révolution et l'innovation du siècle à Saint-Étienne. Donc c'est ça qui m'a frappé moi d'abord, c'est que ben, avoir deux systèmes, je trouve c'est super parce que du coup on peut s'adapter, que ce soit du 3-5-2. Alors évidemment le 3-5-2, moi j'aime pas du tout parce que d'habitude en fait on laissait énormément d'espace sur les côtés justement et on se prenait des vagues. Je sais plus si vous vous souvenez hein, les dernières fois qu'on a fait ça. Bon là il faut constater que, en fait, dans le système montagnier, il n'y a pas ce phénomène-là. On a réussi à être en 3-5-2 et donc à avoir de l'allant offensif tout en gardant une assise défensive intéressante. Donc, vraiment, moi, je trouve qu'on revient à la normale du football, c'est-à-dire avec des systèmes qui nous permettent de nous adapter non, aux équipes contre qui on joue et aussi potentiellement pendant le match, par exemple, on pourrait imaginer qu'on peut changer pendant le match, ce qui, en fait, pendant un an et demi, nous a complètement échappé, j'ai l'impression. Et donc, voilà, moi je suis très heureux, en fait, qu'on revienne à une situation normale. Et puis, je suis sûr que ça va nous aider à atteindre nos objectifs.
Oui, c'est sûr que c'est une corde de plus à notre arc. On ne peut pas regretter, comme tu l'as dit, de pouvoir proposer un deuxième système et éventuellement de changer de système en cours de jeu. On sait très bien que l'aspect tactique, les équipes sont de plus en plus disciplinées et qu'un changement tactique peut aider à débloquer un match. Alors par hasard, je reviens vers toi donc sur l'évolution au cours de cette très belle série. Alors j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est 6 victoires, un match nul. Moi, j'ai le sentiment que à l'intérieur de cette série, il y a du progrès, que ça soit sur le plan collectif, des repères collectifs de l'équipe, et aussi sur le plan de l'implication des joueurs qui me semblent avoir envie de donner le maximum ensemble pour atteindre l'objectif de la montée.
Sur les progrès à l'intérieur de la série, je suis plus prudent que toi parce que on est tous restés sur le match un peu idéal contre Annecy. idéal à plein d'égards, vous l'avez dit, parce que changement tactique avec une réussite absolue. Et d'ailleurs, en creux, ça met encore plus, ça plombe encore plus le bilan d'Orneland, hein, de voir le contraste à la fois en termes de résultats, mais aussi en termes de manière d'obtenir ces résultats entre Montagny et Orneland. C'est spectaculaire. Mais je trouve que Annecy a un peu de trompe-l'œil dans le plaisir qu'on a pu prendre ou dans l'impression ultra positive qui s'en est dégagée. C'est que depuis le stade, et moi c'est pas le Cop Nord, moi c'est le Cop Henri Point, hein, parce que maintenant on se lève et de plus en plus, mais on a beau se lever, on voit encore bien le schéma tactique, et il y a un truc vraiment qui a sauté aux yeux dès le début du match, c'est l'ambition que je peux pas qualifier autrement que de folle de Guyot et des Annecyens sur ce match, c'est-à-dire qu'ils ont défendu sur la ligne médiane, ils ont cherché vraiment sans réussite, mais chercher absolument à faire un pressing sur nos relances quasiment à hauteur de notre surface de réparation. Et malheureusement pour eux, bah, ils se sont pris, ils ont été pris sur leur défense de vitesse, sur leur défense sur la ligne médiane, plusieurs fois pris de vitesse sur les côtés. Et ils ont changé, ils ont arrêté, ils ont stoppé l'hémorragie en seconde mi-temps. Et du coup, on a vu un match un petit peu plus classique en seconde mi-temps. Certes parce qu'il y avait 3-0, mais aussi parce que l'équipe d'en face avait décidé de jouer comme les autres adversaires qu'on a joués précédemment. Et voilà, si Annecy avait joué tout le match comme ça, peut-être qu'on aurait vu un match qui aurait ressemblé au Red Star ou à Montpellier. En fait, pour finir, moi je trouve qu'il y a deux choses qu'on a immédiatement aperçues dès le match de Montpellier, qui était le premier de Montagnier. Et qui ont été deux choses très en contraste et en opposition par rapport au règne Orneland. C'est la solidité défensive de l'équipe, et notamment, effectivement, comme l'a dit Pat, le côté compact de l'équipe, c'est-à-dire pas d'espace entre les lignes. Et puis, effectivement, dès le match de Montpellier, une solidarité, y compris des joueurs offensifs, pour venir harceler quand on amenait et qu'il fallait tenir le résultat. Je pense à, par exemple, David Tachvili, qui moi avec lequel j'avais souvent des enfin pour qui j'avais souvent quelques réticences, parce que je trouvais que il n'était pas trop concerné par les tâches défensives et qu'il abandonnait un peu son latéral. Bah, depuis que Montagnier est arrivé, vraiment il est impliqué. Et du coup, bah en fait, ça c'est vraiment depuis le début. J'ai pas forcément l'impression qu'il y a eu des progrès. N'oublions pas qu'avant d'ici, il y a quand même eu le match de Grenoble, qui pour le coup était quand même notre pire prestation depuis que Montagnier est arrivé. Donc c'est pour ça que la notion de progrès un peu linéaire, je la valide pas. J'ai fait long, mais voilà la raison pour laquelle je ne la valide pas.
Oui, bah, c'est bien, tu as exposé ton point de vue. Moi, je trouve quand même que sur le plan collectif, il y a des connexions qui se font mieux maintenant qu'au début, ce qui est logique pour des gens qui travaillent, hein. Par exemple, les connexions Hold David Tachvili, je les trouve meilleures. On a aussi le retour en forme de Lucas Tassin, mais ça, on va en parler avec la petite rubrique des leaders au rendez-vous, hein, que j'ai intitulée des leaders au rendez-vous. Avant ça, intervention de Verivel.
Oui, bah, pour vous parler du chat, évidemment, parce qu'il y a Francky qui s'emballe un petit peu et qui nous dit qu'on va gagner nos deux prochains matchs et que trois va se faire accrocher, soit à Montpellier, soit à Rodez, et donc qu'on sera devant et qu'on aura notre destin en main. Bon, il s'emballe, c'est bien. Et Denis, qui en fait nous dit que Guyot, il a voulu faire du Orneland en fait contre nous. Et du coup, ben, il s'en est pris une bonne, comme Orneland le faisait aussi également. Voilà. Et puis un peu les mêmes remarques. Attention à ce que cette superbe victoire, qui est surtout une victoire tactique, ne pas se voir trop beau. Ça, c'est Denis qui parle de ça. Et puis Patavo qui nous dit qu'il ne faut pas négliger les apports du mercato et la confirmation du bon repositionnement de Ben Hold. Voilà, donc les échanges continuent sur le chat.
Oui, les apports du mercato. Alors, je crois que c'est Pat qu'on a parlé. Moi, j'ai les deux mêmes joueurs, bah, comme beaucoup, hein, je pense en tête. Évidemment, Julien Le Cardinal et Kanté qui ont changé beaucoup de choses. Le Cardinal est vraiment très bon, hein, très très bon depuis qu'il est
Mais
arrivé.
peut-être pas les mettre au même niveau. Si je peux me permettre, je ne les mettrais pas au même niveau, moi.
Non, ben
Même
vas-y.
si Kanté a un style de jeu qu'on n'avait pas, avec enfin un milieu de terrain qui agresse un peu, parfois il a perdu des ballons un peu étonnants, et je suis assez satisfait de son apport, mais je me dis en Ligue 1, je ne sais pas ce que ça peut donner. En revanche, le Cardinal, je suis plus que satisfait, quoi. Il a fait que des très bons matchs, de mon point de vue. Et dans plusieurs domaines, c'est-à-dire à la fois techniquement et dans son rôle de défenseur, mais aussi dans un rôle de leader, quoi. Son leadership, il est assez spectaculaire. Donc, c'est deux satisfactions, mais une qui est raisonnablement satisfaisante, on va dire, et l'autre, moi, j'en attendais pas autant de le Cardinal, je sais pas vous, mais je suis bluffé, quoi. Alors, il me fait penser un peu à Perrin. Je ne sais pas jusqu'où la comparaison, enfin, jusqu'à quel niveau la comparaison sera valable. Parce que je me dis que s'il n'a jamais joué comme titulaire indiscutable en Ligue 1, c'est peut-être qu'il y a une raison. Pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment vu, moi, la raison. Je ne sais pas vous, mais je suis assez bluffé, en fait, par le Cardinal.
Oui, il fait un sans faute. Il a stabilisé la défense. Il est totalement indiscutable. Je suis d'accord avec toi. Alors, Kanté fait est moins impactant. Par contre, on avait eu la discussion. Je ne sais plus si c'est lors de la dernière émission, mais par contre, effectivement, c'est le point de vue que j'avais défendu. Et on n'avait pas ce profil-là. Le ressenti après un seul match. D'ailleurs, c'était pas un match. C'était un bout de match quand il était entré. C'est ce que j'avais dit, même sur cette période assez courte, on se rend compte qu'il va changer des choses parce que c'est un profil qu'on n'avait pas et c'est un profil qui nous fait du bien. Est-ce qu'il est au niveau de la Ligue 1 aujourd'hui? Non, moi je réponds, mais il a 20 ans, quoi. Donc il y a quand même encore probablement une marge de progression assez intéressante. Alors, j'ai mis des leaders au rendez-vous aussi parce que tu as parlé par hasard de David Tachvili qui est un peu transformé quand même depuis l'arrivée de Philippe Montagnier. Et puis, il y a le retour en forme de Lucas Tassin. C'est dommage que Dissident ne soit pas là parce qu'il nous avait dit tout le bien qu'il pensait de Lucas Tassin. Pat, ça fait plaisir de le revoir un bon niveau quand même, Lucas, parce qu'il traînait un peu comme une âme en peine sur la première partie de saison. Et là, je trouve que physiquement, il est mieux. Bon, c'est pas le plus rapide ni le plus puissant, mais il n'empêche que je trouve que sur le plan athlétique, il est nettement plus en forme, premièrement. Et deuxièmement, enfin, il y a trois trucs. Sur le plan athlétique, il est plus en forme. Sur le plan technique, il a retrouvé de la confiance. Et je trouve qu'il est heureux dans l'équipe, parce que sa réaction après sa passe décisive pour Irvine Cardona, ça a fait plaisir à voir.
Ah oui, bah, on retrouve le Lucas qu'on connaissait, qui était beaucoup plus souriant, beaucoup plus positif et beaucoup plus impactant également au niveau de l'équipe. C'est sûr qu'il y a un vrai changement. Alors, je ne sais pas si c'est l'ambiance pesante du système de jeu précédent qui avait ou toute l'équipe, de toute façon, il n'était pas le seul hein, à traîner son âme en peine sur le terrain. Mais c'est vrai qu'on le voyait pas faire les courses comme il le fallait, qu'il était moins impactant. Impactant devant, enfin, et puis il faisait critiquer, je pense, à raison, même si pour le coup c'était l'arbre qui cachait la forêt, hein, parce que les autres n'étaient pas non plus bien meilleurs que lui. Là, depuis le retour de Montagnier, l'arrivée de Montagnier, bah, il a réussi à remettre en selle notre Lucas, qui du coup a retrouvé la joie de jouer, fait beaucoup plus d'efforts. C'est assez flagrant de le voir, notamment quand on est disposé en place dans le Kop Nord, parce qu'on le voit vraiment courir derrière, en avant, sur les côtés et tout, pour faire les efforts défensifs, pour récupérer le ballon. Il essaye sans cesse de se démarquer pour essayer de pouvoir trouver la bonne ouverture et pour pouvoir ensuite générer les passes de ses coéquipiers. Et puis, ça y est, il a retrouvé le chemin des filets, il fait des passes décisives. Non, on a retrouvé un Lucas qui semble heureux dans l'équipe. En plus, je pense que le fait qu'il soit sélectionné, en plus maintenant, c'est la récompense pour lui de tout son travail et de tous ses efforts. Voilà, bon, je pense qu'on a retrouvé notre Lucas. Le public ne s'y trompe pas, parce que maintenant, il est acclamé à chaque match, même quand il ne marque pas. Donc, je pense que là, effectivement, on a retrouvé notre Lucas.
Oui, puis je voulais dire un petit mot aussi. On parlait de leader. Alors Gauthier Larsonneur, il est parfois critiqué, mais il fait quand même partie des leaders de cette équipe. J'étais un peu inquiet à la suite de sa blessure parce que les quelques fois où mince, c'est Vincent Planté qui me vient en tête, alors on en est très là. Brice Maubleu était venu sur le suppléer Gauthier Larsonneur, j'avais pas été convaincu. Et le match à Grenoble a remis tout le monde, enfin en tous les cas moi m'a rassuré énormément. Il a fait un énorme match, tant mieux pour lui. Et il a fait la démonstration que on n'était pas dépourvu de deuxième gardien. Donc ça c'est super important aussi dans la course à la montée parce que bien évidemment si Gauthier Larsonneur soit si son indispo, si sa blessure est plus longue que prévu, soit s'il se reblesse, on aura quand même une solution de rechange qui a fait la démonstration qu'elle était à la hauteur. Donc ça, c'est très, très positif pour nous. Alors on attaque la troisième et dernière partie sur les perspectives. Déplacement à Nancy, réception de Dunkerque, déplacement à Bastia, réception de Troyes. Si on fait un peu de football fiction. Il faut réussir quel type de résultat pour avoir la quasi-certitude de monter par hasard? C'est quoi une série réussie pour toi dans ces quatre matchs-là?
Ben, en fait, je suis assez optimiste. Une série réussie, pour moi, c'est à partir de 9 points. C'est-à-dire que je pense que quand on vise la montée, on a le droit de perdre de temps en temps, tant qu'autour d'une défaite, il n'y a que des victoires, quoi. On n'a pas suffisamment de marge pour s'autoriser, comme à l'époque de Nouzaret, pour s'autoriser un relâchement dans les 5-6 derniers matchs, comme en 99. Donc il faut continuer à être à fond. Je suis assez optimiste parce qu'on va jouer trois équipes avant trois qui sont sur une mauvaise dynamique, que ce soit Nancy, Dunkerque et Bastia. Dunkerque sont en train de dire adieu progressivement au barrage. Bastia, que je voyais comme un outsider cette saison, ils n'ont jamais su réagir. Sinon, enfin, réagir, ils ne se sont jamais totalement écroulés parce qu'ils perdent rarement sur des gros scores, mais ils ne sont pas capables de gagner un match. Ils sont très limités. Je les ai vus deux, trois fois le vendredi soir, ils sont limités. Et puis Nancy, pour moi, c'est un Grenoble en moins bon, quoi, en moins solide. En tout cas, c'est ce que disent les stats, parce que pour le coup, je ne les ai pas vus jouer, Nancy. Enfin, si, une fois à Geoffroy. Donc, il n'y a pas loin pour moi, d'ici à ce qu'on gagne nos trois prochains matchs, il n'y a pas loin, et qu'on joue éventuellement pour la montée contre Troyes. Donc, le quatrième match, il n'y a pas loin. C'est un peu le scénario idéal que j'ai en tête, c'est-à-dire 9 points. 9 points, Le Mans qui n'en prendrait par exemple que 6 sur les deux prochains matchs. Et donc, on aurait 6 points d'avance, si je ne dis pas de bêtises, sur Le Mans avant le match contre 3, avec la garantie en battant 3 de garder nos 6 points d'avance et une différence de but qui est déjà supérieure et qui sera encore large, enfin encore plus avantageuse pour nous. Donc pour moi, il y a un scénario pas si déconnant qui est on gagne nos trois prochains matchs et on peut officialiser la montée contre 3. Bon, évidemment, c'est un peu le scénario idéal. Donc peut-être m'emballe-je un peu.
M'emballai-je avec un accent aigu, si je peux me permettre. Verivel, est-ce que le match de Troyes, c'est un match que tu attends avec impatience, un peu comme un grand rendez-vous, parce que c'est quand même l'équipe qui domine le championnat cette saison jusqu'à présent? Ou est-ce que tout ça, c'est anecdotique dans ta tête parce que ce qui compte, c'est la montée et le match contre 3, c'est juste 3 points, quoi.
Alors, effectivement, ce qui compte, c'est la montée. Je ne vais pas dire que je mets le match de 3 au-dessus de la montée. Par contre, ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on arrive à 3 avec moins de 3 points, justement, d'écart. Ça, ce serait vraiment génial. Ça ferait une vraie finale. Et du coup, ça ferait un vrai super match de pré-Ligue 1. À jouer pour le titre. Et ça, ce serait vraiment excellent. Il faut pas oublier qu'avant d'aller à 3, donc on a ces 3 matchs à gagner. Voilà, on connaît la route. Et on a, en fait, ce qui compte, c'est la montée. Quand on dit ce qui compte, c'est la montée, ça veut dire que c'est l'écart avec le troisième, en fait, qui compte vraiment. Et l'écart avec le troisième, on a vu que Le Mans, en fait, ils sont sur une super dynamique. Moi, je ne les vois pas. Il y a des gens qui disent qu'ils vont gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison. C'est à mon avis impossible pour eux. Mais en tous les cas, il faut quand même. On n'a que 3 points d'avance. Alors, avec le goal average, ça fait un petit peu plus. Il ne faut pas négliger ça. Mais je répète que arriver à 3 avec un écart de 1, 2, ou 0 point, ce serait vraiment génial.
Oui, c'est sûr que l'écart avec 3 comptera aussi dans ce que ce match va nous faire ressentir. Et puis, ça serait aussi l'occasion d'avoir une ambiance peut-être encore plus exceptionnelle à Geoffroy. C'est difficile hein, parce que là, c'est très très fort ce qui se passe actuellement. On est à un niveau vraiment. Là, il n'y a pas photo, Ligue des Champions, enfin, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, les gens qui découvrent Geoffroy Guichard pour la première fois n'en reviennent pas, quoi. Enfin, ils comprennent que c'est un monde à part. Alors, on approche de l'heure d'émission, donc on va passer au dernier point assez rapidement sur les 50 ans de l'épopée Pat. J'ai écrit dans le conducteur. Ce qu'il reste de l'épopée. Est-ce qu'il reste quelque chose pour toi de l'épopée? Est-ce que c'est quelque chose qui compte? Est-ce que tu es encore ému quand tu vois les images? Est-ce que tu les regardes de temps en temps? Qu'est-ce que ça t'évoque, cette épopée de 76?
Pour moi, cette épopée, c'est une époque que moi personnellement je n'ai pas connue. Clairement, moi j'ai commencé à supporter les Verts dans les années 90. Donc j'ai découvert cette épopée sur, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, sur cette fameuse cassette vidéo, l'épopée des Verts. Hein. J'ai commencé vraiment avec ça et j'ai retrouvé d'ailleurs récemment les images sur Internet et ça fait toujours un effet incroyable de revoir cette histoire complètement dingue au final parce que c'est quand même un truc de fou ce qui s'est passé dans les années 60-70 dans cette ville on pourrait dire cette ville de province pour laquelle c'était pas destiné au départ. Et si on parle des Verts, si on parle de Saint-Étienne dans la France entière encore, c'est grâce à cette épopée. Moi, je me souviens quand j'étais gamin et que j'allais voir ma tante justement dans la Loire, elle me racontait sans arrêt que quand elle prenait sa voiture avec sa plaque 42 et qu'elle partait en vacances, à chaque fois on disait ouais, Saint-Étienne, les Verts, etc. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en France. Et même en Europe, qui peuvent se targuer de ce genre de popularité. Alors bien sûr, maintenant l'épopée, elle a 50 ans, un demi-siècle. Et depuis, on traîne un peu notre âme en peine en espérant des renouveaux. On y a cru certains moments. Moi, j'ai à l'époque Galtier, hein, quand on gagne la Coupe de la Ligue, j'y croyais vraiment, hein, parce qu'on avait quand même cette équipe qui était quand même qui nous représentait tellement et qui faisait tellement de bien à avoir joué, même si à l'époque, des fois, on faisait même des fois un peu la fine bouche des fois devant certains matchs. Et mine de rien, ça fait 50 ans. Et que ce serait bien maintenant qu'on relance une autre épopée. Avec les moyens qu'on a maintenant, on peut l'espérer. Maintenant, et qu'est-ce qu'il en reste? Des images magnifiques et on espère de l'espoir pour la suite.
Oui, on l'espère tous. Alors, avant d'interroger par hasard, intervention de Verivel.
Oui, non, bah, je voulais revenir sur l'épopée. Moi, je suis peut-être un peu plus âgé que Pat, donc je l'ai
Tu es
vécu.
plus âgé que tout le monde ici,
Ouais,
Verivel.
c'est certainement. Je suis pas sûr, mais bon, bref, on va partir là-dedans. Pour nous, c'est quand même une boussole. On ne peut pas s'appeler poteau carré et ne pas penser que l'épopée est une boussole pour nous. Je trouve que quand on pose la question, qu'est-ce qui reste de l'épopée? Moi, je suis toujours extrêmement surpris parce que je trouve qu'il en reste énormément. Déjà, regardez les tribunes, en fait. Même ce qu'on parlait tout à l'heure, les ultras d'aujourd'hui, ce sont les petits-fils des gens qui étaient en tribune pendant l'épopée. Et tout ça s'est transmis, en fait, de génération en génération. Surtout que ça dépasse complètement le cadre stéphanois. L'épopée des Verts, c'est vraiment une épopée française, presque plus que stéphanoise. Et donc, moi, je suis vraiment extrêmement surpris. Alors, quand on regarde les images, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs ces derniers temps, ce n'est pas du tout le même sport. Hein. Ça n'a rien à voir, le rythme, même l'arbitrage, des fois, c'est complètement hallucinant quand on regarde les matchs aujourd'hui, les journalistes qui sautent sur le terrain quand il y a un but pour prendre des photos en face. Moi, à chaque fois, ça me fait délirer. C'est complètement un sport complètement différent. Et pourtant, nous, à Saint-Étienne, on est tous les héritiers de ce truc-là. Et tous. Parce que, en fait, ceux qui étaient dans les tribunes à cette époque-là, ils ont réussi à garder, en fait, cette foi, même avec tous les résultats, même avec tout ça. C'est tellement fort ce qui a eu lieu que, en fait, tout ça s'est transmis. Et toutes les galères qu'on a eues, ça n'a jamais éteint, en fait, la flamme de l'épopée. Et aujourd'hui, moi, je suis en ripoint aussi, comme par hasard. Je suis absolument abasourdi par le nombre d'enfants qu'il y a dans les tribunes, le nombre de familles qui sont pour les Verts, alors que, comme on disait tout à l'heure, on n'a quand même pas gagné grand-chose depuis longtemps. Et tout ça, en fait, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, tout ça découle de cette année 1976 et de cette aventure-là, quoi.
Oui, alors je pense que c'est très juste ce que tu viens de dire, même si j'ai envie d'ajouter que cette épopée, elle est certainement à l'origine de toutes les transmissions dont tu as parlé et de cet amour indéfectible pour le club. Mais avant ça, il y avait déjà eu des moments très forts, et avant ça, il y avait déjà un vrai engouement pour cette équipe. Moi, je me souviens des images de la victoire en Coupe de France en 70, par exemple, avec Colombes qui est envahie de supporters stéphanois. Donc, il y avait déjà de l'engouement quand même pour cette équipe, pour cette couleur, pour cette générosité, pour les valeurs que porte ce club depuis longtemps. Et deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que même si c'est plus tout à fait le même sport, et c'est vrai que c'est rigolo de voir tous les photographes qui rentrent sur le terrain et qui prennent des photos à 50 cm de la tête du joueur qui vient de marquer. C'est très rigolo. Mais il y avait quand même beaucoup de qualité chez ces joueurs-là, beaucoup, beaucoup de qualité. Et la frappe de Battenay à Anfield, alors je précise tout de suite, ce n'était pas en 76, c'était la saison suivante, mais quand même, c'est la même époque. La frappe de Battenay à Anfield, elle fait ficelle tous les jours avec n'importe quel gardien dans les buts. Aujourd'hui encore, il ne faut pas négliger la qualité de ces joueurs-là, de ces garçons-là. Par hasard, si tu devais donner une image de l'épopée de 76, quelle image te reste-t-il? Moi, je sais, j'en ai une en tête là. Alors, la frappe de Battenay, ce n'est pas la bonne saison, mais c'est la plus belle frappe de l'histoire du football français. Il n'y a pas photo. J'en ai une, moi, pour l'épopée. Je voudrais savoir si c'est la même. Non, j'en ai deux. Mais toi, tu as le droit qu'à une seule.
Moi, c'est évidemment le tacle de Lopez, parce que quand j'étais jeune, donc il y a longtemps, mes frères qui sont, j'étais le dernier, donc ils sont tous plus âgés que moi, ont vécu l'épopée, ce qui n'est pas mon cas. Et ils étaient au match de Kiev, et je me souviens d'un de mes frères qui m'a toujours raconté toute ma jeunesse, ce tacle. Et en fait, ce qui reste de l'épopée, Vérivelle l'a vachement bien dit, mais ça se résume en un mot, c'est la passion. Alors, bon, évidemment, j'emploie pas ce mot totalement par hasard, mais quand même, cette passion qui ne se dément jamais. Et ce qui reste et qui est magnifique, c'est que des mecs comme nous, qui ne l'avons pas vraiment vécu, enfin, moi, je ne l'ai pas du tout vécu, c'est-à-dire que j'avais 4 ans et quelques, et je suis passé totalement à côté, voilà. Et ben aujourd'hui, je revois les images, j'ai les larmes aux yeux. Alors que normalement, j'ai les larmes aux yeux si je revois la victoire dans le centième derby. C'est normal parce que ça réveille une émotion que j'avais ressentie à l'époque. Mais là, ça réveille rien du tout. Donc c'est là, enfin pour moi, la force de ce groupe, de cette équipe et de cette épopée. C'est ça sa force, c'est-à-dire que ça s'est transmis de telle façon qu'on a presque l'impression de l'avoir vécu parce qu'on revoit des trucs avec la même émotion, enfin, on voit des images avec la même émotion que si on les avait vécues en direct. Et ça, je ne me l'explique pas, mais ça me fait la même chose que quand je revois le Saint-Étienne Bordeaux d'il y a 2 ans ou le match retour des barrages à Metz d'il y a 2 ans. Enfin, voilà, c'est un truc de. Un truc étonnant, quoi, et de ce point de vue, quand même, ils ont été très forts parce que je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans le sport ou dans le foot français. Mais voilà, pour te répondre à ta question initiale, j'ai encore fait long, mais c'est évidemment le tacle de Lopez.
Ouais, l'intervention de Christian Lopez, alors qui n'est pas vraiment un tacle, hein, je ne veux pas pinailler,
Non, c'est vrai.
mais
T'as raison.
on voit tous cette action absolument. Moi, j'ai récemment commenté, d'ailleurs, je crois que tu as vu mon commentaire sur Facebook, sur cette action, sur le compte du club. J'ai mis ce sont les secondes, enfin, je ne sais plus exactement mot pour mot, mais l'idée, c'est ce sont. Les secondes les plus légendaires du football français. Et rien ne sera jamais plus mythique que ces secondes-là, en fait. Cette récupération de Christian Lopez face au meilleur joueur européen de l'époque, Oleg Blokhin, le prolongement d'Osvaldo Piazza qui élimine un joueur dans le rond central de manière improbable avant de lancer dans la profondeur. Il y a une déviation de Patrick Revelli pour son frère Hervé et ficelle 1-0, le début de la remontada. C'est invraisemblable, c'est extraordinaire. Alors, pour terminer l'émission, je voudrais quand même dire mes deux images. La première, moi, c'est pas l'intervention de Christian Lopez, c'est le débordement de Patrick Revelli. Parce qu'à chaque fois que je vois les images, sur le troisième but de Dominique Rocheteau, tout le monde l'aura compris, je pense, c'est le débordement, cet immense crochet, là, fait à coups de hache, avec de la hargne plus que de la technique. Et à chaque fois que je vois les images, j'ai l'impression que le ballon va sortir, quoi, parce qu'il la pousse trop loin, cette balle. Et elle va sortir, mais non. Et à chaque fois, Patrick arrive au dernier moment pour s'entrer en retrait sur un Dominique Rocheteau, percute de crampe. Qui la met au fond, c'est extraordinaire. Et la deuxième image, là, c'est une image arrêtée. C'est à la fin du match à Eindhoven. Il y a une magnifique photo de Dominique Battenay qui est pendu au cou d'Osvaldo Piazza à Eindhoven et où on voit à la fois toute la fatigue et la joie extatique quasiment de cette qualification pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui nous manque beaucoup. Puisque la ligue commerciale des champions, là, ça a quand même moins de saveur. Pour terminer l'émission, peut-être, Pat, tu peux dire quelle image tu as en tête de... Ah, il y a Verivel qui réclame la parole. Verivel, vas-y, Pat, il n'y a pas le
Bah,
temps de réfléchir comme ça.
J'arriverai pas à tout dire ce qui se passe sur le chat. On a des discussions d'anciens là sur l'épopée, donc c'est rigolo. Allez voir le chat. Je vais pas tout vous dire. Il y a juste Denis qui rappelle qu'on avait vu ce match. Donc je pense qu'il parle de la finale. Non, je pense qu'il parle de la demi du coup. Ou non, de celui à Geoffroy Guichard. Et il dit qu'on avait vu ce match dans un gîte un jour de BA. Donc la BA, c'était la
Ouais.
rencontre des supporters qu'on faisait
D'accord, donc ça
il y
devait
a
être le quart de
longtemps
finale
sur
contre
Potokar.
Kiev.
Voilà, c'est ça, le quart de finale contre Kiev,
Ouais.
j'arrivais plus à retrouver, mais oui, c'est ça.
Ouais,
Et
voilà.
du coup, Denis rappelle qu'on l'avait vu un jour tous ensemble entre potonautes il y a longtemps dans un gîte. Donc
Et la
c'est
date
rigolo.
de ce quart de finale contre Kiev, Jean-Philippe Leclerc, que par hasard connaît par ailleurs et que vous connaissez probablement le nom parce que il a travaillé longtemps à l'équipe, Jean-Philippe Leclerc considère que c'est la vraie fête nationale française. C'est le 14 mars, je ne dis pas de bêtises, c'est ça?
Je crois que c'était il y a, oui, effectivement, il y a 15 jours,
Je crois
quelque
que c'est le
chose comme
14
ça.
mars, ouais. Voilà. Pat, pour terminer l'émission, quelle image tu as en tête rapidement?
Bah,
Une
quelle
seule,
image
t'as
en
droit à une
tête?
seule.
Bah, forcément, c'est foutu poteau carré, même si ça fait notre légende et notre symbole à nous. Bah, putain, s'ils avaient été ronds, la face du monde en aurait été changée.
Ouais, c'est certain. Effectivement, c'est une très belle fin. À chaque fois que je revois les images, cette frappe extraordinaire, une de plus de Dominique Battenet, qui mérite tellement de rentrer, cette tête d'Hervé Revelli alors qu'il avait tout le temps de contrôler. Et puis cette tête fabuleuse de Jacques Santini sur la transversale avec un débordement de grande qualité de Christian Saramagna, un centre idéal comme on aimerait en voir plus à Geoffroy Guichard parce que Ben Hold, s'il te plaît, fais un effort, travaille les centres, c'est pas bon. Demande à
C'était
Christian
moi.
Saramagna comment faire. Cette tête de Jacques Santini qui vient couper au premier poteau Sepp Maier aux fraises. Et bah, ni sur la frappe de Battenet, ni sur la tête de Santini, ça va au fond. C'est triste, c'est injuste, mais peut-être effectivement qu'en partie, ça a fait notre légende, comme l'a dit Pat. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis, que ce soit en direct. Un grand salut à tous les animateurs du chat sur YouTube. Merci à vous d'être présents avec nous pour chaque émission. Et merci également à ceux qui nous écoutent en podcast. Voilà, à très bientôt, le mois prochain, si tout va bien, avec, on l'espère, des Verts au sommet de la Ligue 2. Allez, bonne soirée à tous et allez les Verts.
Allez
Allez
les
les
Verts.
Verts.
Allez les Verts.